Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de DTC, dans ta collection, le podcast consacré à la collection de jeux vidéo. Car oui, nous sommes de plus en plus nombreux à rechercher, chiner et exposer ce médium qui nous fait tant rêver et qui continue de nous faire rêver. Je suis ACR, en direct du Québec, et à mes côtés pour cette première émission, j'accueille Nakwada. Comment ça va, Nak?
Ça va, nickel. Salut tout le monde, bonjour depuis la France.
Au sommaire de cette première émission, on va faire un point actu sur nos dernières trouvailles. On va parler aussi de la folie des prix qui touchent la Super Nintendo. Et on discutera aussi de notre grand sujet pour ce numéro, des différents profils de collection et de collectionneurs. Donc on va commencer tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. Et on va commencer par donc nos dernières trouvailles. Donc Nakoda, qu'est-ce que tu as chiné cette semaine ou reçu
Alors cette semaine, j'ai découvert sur le bon coin la cartouche Vectrom. C'est une cartouche qui contient une trentaine de ROM pour le Vectrex et qui a été fabriquée artisanalement par les membres du forum silicium.org. Je connaissais pas du tout son existence jusqu'à présent. Je suis tombé dessus par hasard parce que je cherchais des accessoires pour mon Vectrex. Et du coup, bah, je l'ai commandé, je l'ai obtenu pour 25 € environ.
Ah, classe.
Ouais. Et je l'ai reçu en début de semaine, là, j'ai pu tester un petit peu. C'est quand même assez particulier comme cartouche, quoi, je dirais. Il y avait pas de menu pour sélectionner les jeux, en fait, dedans. Et on a carrément une liste avec des positions d'interrupteurs. Et il faut positionner les interrupteurs sur les bonnes positions pour sélectionner son jeu.
Ok, donc dans le genre Atari 2600, quoi.
Exactement.
Nice.
Et deuxième chose aussi que j'ai découvert, enfin que j'ai pu retrouver, je voulais essayer de choper Duke Nukem 3D en boîte, et finalement j'ai trouvé Quake 3 Arena pour PC en boîte, en super état, ouais.
Donc avec la boîte en carton.
Ouais, la boîte en carton et tout, et j'ai réussi à l'obtenir pour 10 € frais de port compris.
Oh, classe.
Bonne affaire.
Tu t'es procuré ça où?
Sur leboncoin.fr, pareil.
Oh, c'est bien. Non, on peut faire des bonnes affaires sur le bon coin.
Ah ouais, nickel. Puis je trouve ça beaucoup plus pratique en fait que Amazon. T'as pas besoin de donner ton numéro de carte ni rien. Tu peux directement envoyer un chèque si t'as envie.
Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et en général, ça arrange tout le monde aussi, quand même.
Ouais, tu peux vraiment choisir ton moyen de paiement.
Par contre, je voulais juste savoir pour la Vectrom, c'est des jeux qui ont été faits par des gens ou c'est des portages?
Alors non, il s'agit des ROM pour la console elle-même. Des vrais jeux, quoi.
Non, mais des jeux qui ont été faits par des amateurs ou des jeux qui étaient sortis avant
Des jeux qui sont sortis sur la Vectrex, c'est pas des jeux indépendants, entre guillemets.
Ok. Yes.
Et toi alors, t'as de nouveaux arrivages?
Ouais, pas mal. Trois jeux. Donc je vais commencer avec Segare Ijiri, que j'ai lancé tout à l'heure. Donc il y a un jeu pour la PlayStation première du nom, complètement barré, que j'ai découvert en regardant l'émission de Florent Gorge, Les Oubliés de la Playhistoire, sur nos lives, que je vous invite à découvrir pour apprendre à connaître des jeux qui ont justement, comme le titre de l'émission l'indique, qui ont été oubliés injustement. Et celui-là est vraiment complètement barré. En fait, on joue un bonhomme avec une tête de flèche,
Quoi?
et en fait, on doit interagir avec différents personnages dans l'univers. Ça se présente un peu comme un jeu de plateforme où les personnages et les décors sont en 3D, mais ça se passe sur un plan 2D en fait, quoi. On peut pas bouger dans la profondeur, quoi,
Ouais.
ou seulement quand on est invité à le faire. Et c'est vraiment complètement débile. En gros, faut assembler des groupes de mots correctement pour déclencher une cutscene qui va faire apparaître de nouveaux personnages et permettre d'interagir avec eux et de justement débloquer la progression dans le jeu, quoi. Mais donc il y a vraiment une
Okay.
direction artistique particulière avec des vaches à tête d'homme, des bananes avec des membres. C'est vraiment très très particulier.
Je vois, ouais. Ensuite.
Après, j'ai reçu Tiny Toons Buster Bust Loose complet, donc sur Super Nintendo. Par contre, j'ai reçu la version allemande, contrairement à la version franco-hollandaise qui était initialement prévue. Mais finalement, le jeu est tellement en bon état que je pense pas que je vais le revendre. Je voulais m'arranger avec le vendeur pour voir si je devais lui renvoyer ou pas. Mais finalement, le jeu est vraiment en bon état, donc ça me fera mon premier jeu en allemand intégral, quoi.
Ok.
Et pour terminer, j'ai trouvé sur Kijiji, donc qui est le bon coin du Québec, on va dire, où on peut vraiment trouver de tout et faire des bonnes affaires. Et là, ça a été mon cas parce que je me suis trouvé le Zelda Collector's Edition sur GameCube, qui est donc sur un mini DVD où on retrouve les deux premiers Zelda sur NES, donc The Legend of Zelda et Zelda 2 The Adventure of Link, et aussi le Zelda Ocarina of Time et Majora's Mask, plus une démo de Wind Waker. Et donc j'ai eu tout ça pour 25 $, sachant que le jeu s'échange toujours aux alentours de 60-70 $, quoi, et pareil en euros. Et donc la raison de cette bonne affaire, c'est parce que le jeu est en fait en version anglaise. Donc c'est la version britannique du jeu, et le vendeur, je pense que ne devait pas savoir quoi faire avec ça sur sa GameCube canadienne. Et donc du coup, ça a été la bonne opportunité pour moi de me procurer ce petit CD dont maintenant je vais pouvoir me servir une fois que j'aurai ramené ma GameCube de France, quoi.
Ah, c'est pas mal quoi, c'est vraiment un bon gros pack de bons jeux Zelda en fait.
Ouais, exactement,
Bonne compile.
c'est un CD promotionnel en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est écrit donc not for sale dessus, donc c'est vraiment un exemplaire qui était destiné à la promotion et qui était sorti au moment de qui était sorti ouais un peu avant le Zelda Wind Waker sur GameCube, et qui était je sais plus si c'était donné au club Nintendo ou qui était donné lors de concours ou tout ça. Enfin, là, je pense que je vais me renseigner plus. Parce que c'est vrai, je m'en rappelle
Ok.
plus. Il est sorti, je suis là. Est-ce que tu veux rajouter autre chose?
Bah pour moi c'est tout. Tout ce que j'ai trouvé cette semaine, disons.
Et tu continues à chiner, du coup, sur Le Bon Coin, sur eBay, non?
Ouais, toujours je suis à l'affût. Bah là en fait j'en cherche surtout les jeux Duke Nukem en fait.
Le jeu du King.
J'aimerais bien trouver je crois que c'était Duke Nukem Zero Hour qu'on avait sur 64.
Exactement. Ok.
Et particulièrement Duke Nukem 3D.
Ok.
Si je peux le trouver en boîte et tout pour PC, j'aimerais bien.
Ok. Bah, on va aussi faire passer le message à nos auditeurs, quoi. Donc, si vous trouvez le Duke Nukem 3D, vous contactez Nakoda et vous lui donnez.
Ah ouais, carrément, ouais.
Quand ça sera content. Donc, maintenant, on va passer à l'autre actu bouillante pour ce tout premier numéro de DTC. On va parler de la folie des prix sur Super Nintendo, et particulièrement donc sur la Super Nintendo européenne et la Super NES américaine, puisque c'est vrai que c'est complètement différent pour la console japonaise. Donc du coup, toi, ça t'évoque quoi la Super NES, Nak?
Bah, la hausse des prix des jeux Super NES.
Enfin, même la console en tant que telle, déjà. C'est une console que t'as eue ou
Malheureusement, non, je l'ai pas eu à l'époque parce que moi j'ai commencé avec la Mega Drive
Ok.
et ensuite j'ai enchaîné avec une 64. Et la Super NES, ouais, je l'ai eu très très tard, je l'ai eu en 2008, il me semble.
Ah ouais, c'est ça.
Ouais, j'avais réussi à choper un pack avec la console et 7 ou 8 jeux.
Ok.
Il y avait dedans Zelda, il y avait Super Mario World et un tas d'autres que j'ai plus en tête.
Ok. Ah, c'est le Zelda, je l'ai même pas fait.
Oh,
J'ai une
toi, t'as même pas Zelda.
Ah, j'ai une trentaine de jeux sur Super NES, mais j'ai même pas Zelda.
Oh, ok.
J'y ai joué, hein, mais quand j'étais petit, mais je l'ai jamais eu.
Pourtant, celui-là, il me paraît pas très dur à trouver quand même.
Non, il est pas compliqué à trouver, c'est juste qu'il coûte cher, quoi. Et que comme je suis un fétichiste des bonnes affaires aussi, j'attends de trouver à bon prix, quoi.
Oh, ça va, j'ai eu de la chance. Je crois que je l'avais acheté à part de la console. Celui-là, il me semble que je l'ai payé 7 euros, quelque chose comme ça.
Ah ouais, avec la boîte et tout, ou juste le jeu en loose?
Ah non, j'ai que le jeu en loose, malheureusement. Le seul jeu en boîte que j'ai pour Super NES, c'est... comment ça s'appelle? R-Type.
Le Super R-Type?
Ouais, Super R-Type en boîte. Bon, la boîte est un petit peu abîmée, mais c'est la cartouche américaine, quoi.
Ah, c'est la cartouche américaine.
Ouais, mais j'ai l'adaptateur pour faire passer les jeux américains sur ma console.
Donc du coup, bah ouais, sans transition, bah, la hausse des prix sur Super NES, qui est justement comme on l'a laissé entrevoir avec notamment les jeux à succès tels que Zelda, Final Fantasy ou encore des jeux un peu moins connus et plutôt rares comme Wild Guns. Donc c'est des jeux qui sont vraiment recherchés, surtout dans un bon état de conservation. Donc là, j'étais en fait sur mon forum préféré récemment. Donc d'ailleurs, bonjour à tous les gens de Limited Edition. Et donc j'ai pu voir vraiment que la folie des jeux sur Super NES s'arrêtait pas quoi. Récemment, il y a The Death and Return of Superman qui était complet avec la boîte et tout ça, qui a fini à 261 €. Donc en enchère sur eBay. Donc
Wow.
c'était c'est vraiment ouais là on commence à s'approcher de prix assez fou puisque le jeu en lui-même est vraiment pas superbe pour l'avoir et l'avoir fini plusieurs fois c'est un bon jeu c'est un bon beat'em up mais c'est vraiment pas le meilleur quoi c'est pas du niveau de Final Fight par exemple quoi. Et donc 261 € pour un jeu comme ça c'est quand même pas mal quoi et on a aussi donc comme je le disais Wild Guns. Celui-là, pareil, complet, qui a fini à 401 € récemment. Donc c'est
Carrément astronomique quoi pour un jeu.
astronomique pour. Enfin, moi, j'avais pas vu ça avant pour avoir collectionné depuis un petit moment. J'avais jamais vu ça avant, quoi. C'est vrai que ça me fait vraiment bizarre de voir que au début des années 2000, c'est peut-être fin 99, début 2000, où on trouvait des jeux d'occasion dans les encore dans les magasins, dans les grandes chaînes ou les magasins spécialisés. Pour 50 francs quoi, donc 7,50 € ou ce qui a été l'occasion pour moi de m'en acheter quelques-uns quoi.
Ouais, il fallait en profiter à l'époque, c'était pas cher.
Parce que là maintenant c'est ces mêmes jeux, c'est plus 50 francs, c'est 50 €.
Ouais. Ben en fait, c'est un peu bizarre parce qu'à l'époque, 50 francs, ça pouvait nous paraître un petit peu élevé.
Ouais.
On se disait, ouais, pour un jeu d'occasion et tout, ça fait un peu cher. Alors qu'aujourd'hui, putain, ça fait seulement 7 euros. Et on se dit, ouais, mais c'est carrément pas cher en fait.
Ah, parce que maintenant, même des jeux de cette génération-là qu'on voudrait pouvoir s'échanger pour 7 €, des jeux PS3 ou Xbox 360 à 7 €, faut vraiment qu'ils soient mauvais, quoi. Mais c'est vrai qu'après, c'est un phénomène un peu particulier puisque on a aussi le phénomène inverse où il y a eu le jeu Aladdin toujours pour Super Nintendo, donc, mais dans sa version avec la boîte noire. Donc qui est différent de la version avec la boîte vert pomme et qui est vraiment moins courant quoi. Celui-là par contre il a fini aux alentours de 27 €, donc qui est vraiment un prix correct quoi, même si ça reste
Ah, ça va, ouais.
toujours un peu cher quoi, mais c'est enfin pour un truc moins courant et plus rare que qu'un jeu comme Superman ou Wild Guns, enfin, c'est vraiment bizarre quoi. Je sais pas ce que t'en penses hein.
Ouais, c'est vrai, mais peut-être, bon, tu dis que la hausse des prix a commencé il y a 1 ou 2 ans.
Ouais, à peu près.
Ouais, c'est peut-être dû aussi aux consoles virtuelles qu'on a sur Wii et bon, plus récemment sur Wii U.
Ouais, c'est pas faux que les ouais, ça a sûrement dû contribuer à la loi de l'offre et de la demande quoi. Donc les jeux sont demandés, donc les gens les sortent au compte-gouttes et les mettent en enchère et les gens achètent quoi.
Ah, parce que peut-être c'est des, par exemple des jeunes qui avaient la console quand ils étaient petits. Puis bon, maintenant ils ont grandi, peut-être que depuis le temps ils ont vendu leur console, ils se disent, ah tiens, ça y est sur la console virtuelle. J'ai peut-être envie aussi de rechoper la console elle-même avec les vraies cartouches et tout. Donc il y a peut-être plus de demandes à cause de ça, et peut-être que les prix augmentent à cause de ça.
Ouais, pas faux. Pour toujours sur ce phénomène de hausse des prix, c'est pareil outre-Atlantique. Donc ici en Amérique du Nord, j'ai pu constater exactement le même phénomène, mais surtout avec des jeux connus comme Final Fantasy III, donc qui est le 6 en réalité, qui s'est échangé récemment sur eBay. La dernière enchère que j'ai vue, c'était à 245 $, je crois, quelque chose comme ça. Donc
Ouais,
jeu
quand même.
complet avec la boîte et tout ça. Quoi. La carte du monde et pareil pour Chrono Trigger qui s'échange à peu près dans les mêmes gammes de prix quoi ce qui est vraiment donc ce qui rend les recherches difficiles enfin ce qui rend l'obtention de ces jeux difficiles quoi surtout que ouais ceux-là aussi sont ressortis sur que ce soit sur les consoles virtuelles ou sur d'autres consoles plus tard quoi donc Final Fantasy VI par exemple est sorti sur PlayStation, il est ressorti sur Game Boy Advance, Chrono Trigger c'est sorti sur DS après aussi, donc c'est vraiment un effet de nostalgie quoi, qui a provoqué ça.
Ouais, on va sans doute les retrouver aussi sur la virtuelle de la console virtuelle de la Wii U
Ouais,
bientôt.
quand elle sera disponible, donc normalement incessamment sous peu.
Ouais, il me semble que c'est prévu printemps 2013, donc on est en plein là.
Ouais, on est en plein dedans, donc
Ça va pas
on
tarder.
va voir ce que ça donne. Ils nous ont déjà fait une belle opération, je trouve, avec les jeux à 30 centimes, quoi.
Ouais.
Qui moi m'ont permis de voir que j'étais toujours autant mauvais à F-Zero ou à Punch-Out aussi.
Ah, il y avait quoi? Il y avait 8 jeux, non? Disponibles à 30 centimes?
Bah en fait ils sortent ils sont étalés sur jusqu'aux 30 ans de la Famicom, puisqu'en fait ils ont sorti cette opération pour les 30 ans de la Famicom qu'on va fêter cet été ou à l'automne prochain.
Ouais.
Et du coup, il y a eu pour l'instant, il y a eu on a commencé par quoi? Je sais plus parce que j'allume tellement pas ma Wii U souvent. On a eu F-Zero, on a eu là il y a
Le
Kirby.
premier, il y a eu Balloon Fight.
Oh, il y a... Ah oui, voilà, le premier, ouais, exactement, c'était Balloon Fight. Après je crois que c'était F-Zero.
F-Zero, Punch-Out,
Après
Kirby.
Punch-Out, après il va y avoir Kirby là qui va sortir dans 4 jours.
Ouais.
Après on aura Super Metroid. Donc bon, c'est celui-là que j'attends le plus. Et après quelques autres aussi dont mais là je les ai plus.
Là, il y aura Yoshi et Donkey Kong, j'ai la liste là sous les yeux.
Ah, OK. Donc Yoshi et Donkey Kong. Et ce qui est un peu dommage par contre, c'est que les jeux sont pas les mêmes entre l'Occident et le Japon. Pour des raisons quasiment évidentes, mais et ce qui fait que le Japon par exemple va avoir Mother 2, donc Earthbound en Occident. Et qui est un jeu vraiment super pour l'avoir fait l'année dernière. Et du coup, nous, à la place de ça, bah ouais, on se tape Kirby, je crois. Justement, qui est un jeu qui a été maintes et maintes fois éculé, quoi. Mais
Et qui
bon.
est quand même un très bon jeu pour la NES, je trouve.
Ouais, exactement. Ouais, c'est une très bonne version avec plus de possibilités que sur la version Game Boy. Donc, et en couleur. C'est toujours ça de prix. Donc je sais pas si t'as quelque chose à rajouter pour la folie des prix Super Nintendo.
Ouais, je pense qu'il y en a qui exagèrent un petit peu quand même.
Ah ouais, bah c'est sûr. Hein. Bah, souvent ce qu'on voit c'est bah, en tout cas pour écumer Kijiji tous les jours, on voit vraiment beaucoup de cartouches en loose entre des fois 10 et 50 dollars quoi pour des jeux hyper courants et pas du tout recherchés et juste parce que c'est à la tête d'une cartouche Super NES, on va te mettre un prix dessus parce que soi-disant on connaît la valeur des jeux donc c'est quand même assez marrant de voir qu'on va te vendre genre Batman Forever en loose à 50 dollars parce que c'est un jeu Super NES.
Ah ouais, quand même. Ouais, bah souvent ça c'est parce qu'il y a des gens qui disent, enfin, qui ont des amis qui disent ouais c'est un vieux jeu et tout, faut que tu le vendes cher, machin, c'est rare, alors qu'en fait non.
Ouais, voilà, c'est ça, enfin le Ouais. On parlera des vrais jeux rares dans une prochaine émission, quoi, parce qu'il y aura vraiment beaucoup à dire de ce côté-là, quoi.
Oh oui.
Et qu'on verra justement que certains jeux valent vraiment leur prix, alors que certains autres, c'est ouais, comme tu le disais, c'est de l'abus total, quoi. Donc là, on va passer à notre grand sujet pour cette toute première émission. On va s'intéresser aux différents profils de collections et de collectionneurs qui existent. Donc bien sûr on n'aura pas le temps de tout couvrir. Vous pouvez nous laisser vos commentaires donc sur acr-collection.net ou sur le topic dédié sur le forum Limited Edition. Vous tapez juste Limited Edition dans Google et ça marchera donc que ce soit en France ou au Canada pour l'avoir testé. Oui aussi pour continuer sur ce petit disclaimer. Donc on n'aura pas le temps de tout couvrir et surtout, on n'a vraiment pas pour vocation de vouloir caser les collectionneurs dans des cases, justement, car tout type de collection existe et c'est vraiment c'est plus pour défricher un peu le terrain, pour voir comment la collection de jeux vidéo s'articule complètement que de voir que de vraiment caser les collections de telle personne dans telle case et ainsi de suite, quoi.
Ouais, vraiment, on va juste donner les grandes lignes, et puis après, chacun fait sa collection comme il l'entend, hein.
Ouais, exactement, puisque
Il n'y a pas vraiment de règles pour collectionner.
ouais, tout à fait. On verra de toute façon que ça se mélange. Il y a vraiment rien d'établi, quoi. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose. Mais on va en parler dans un tout petit moment. Donc d'abord, bah, je vais poser la première question. Qu'est-ce qu'un collectionneur de jeux vidéo, mon cher Nakoda?
Ben, un collectionneur de jeux vidéo, même d'autres choses. C'est avant tout quelqu'un qui est passionné et qu'on appelle souvent à tort un geek. Bon, personnellement, je suis pas un collectionneur acharné, hein, mais j'ai eu aussi droit à nerd, par exemple, ou à no life. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le bon adjectif. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui est passionné et qui est amoureux d'une marque, d'un genre ou d'un univers particulier. Dans notre cas, c'est celui des jeux vidéo, qui est souvent blâmé et un peu entaché d'une mauvaise réputation par les gens qui ne connaissent pas grand-chose.
Et ouais, malheureusement.
Ouais. On passe un peu pour des fous, pour des serial killers parce qu'on joue aux jeux vidéo. Mon Dieu.
Ah mais justement, enfin moi je vois pas pourquoi nous on passerait pour des fous parce qu'on adore passer des heures soit à collectionner, soit à jouer, alors que les gens qui collectionnent des timbres, enfin je veux dire une fois qu'ils les ont eus, ils peuvent pas vraiment s'en servir quoi. Je pense qu'on les
Ouais.
regarderait plus bizarre que nous s'ils commençaient à jouer avec leurs timbres.
C'est sûr que tu peux pas faire grand-chose avec un timbre à part le regarder et l'exposer, mais bon.
Voilà.
C'est pas
Moi,
très interactif par rapport au
voilà,
jeu.
le jeu vidéo, l'interaction.
Et bon, quoi qu'il en soit, ça reste un univers quand même très très riche en anecdotes et très diversifié, tout comme les collectionneurs eux-mêmes, et des collectionneurs de tout genre. Mais un collectionneur, aussi dévoué soit-il, il peut pas vraiment tout posséder, non seulement pour des raisons de budget et d'espace de stockage ou de rangement, mais aussi de temps libre, n'est-ce pas?
Ouais, tout à fait, parce que c'est ce qui fait aussi du coup la richesse de notre communauté quoi, parce que on a vraiment une diversité totale de collections quoi, donc on va revenir en détail sur chacune d'entre elles, mais juste pour faire les grandes lignes, on peut distinguer vraiment deux types de collections principales. Donc la première qu'on va appeler la collection par constructeur, éditeur ou développeur, plus communément appelé full set, qui consiste pardon vraiment à rechercher posséder tous les jeux d'une machine donnée ou de certains éditeurs développeurs. Donc on va parler de full set Mega Drive, de full set Virtual Boy, avec ses 19 jeux c'est un peu moins compliqué. Ou sinon après avec les éditeurs développeurs, donc les full set Ubisoft, même si j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on voudrait faire ça quoi.
Oh, le troll.
Non, pas du tout. Et
Ouais,
ou le full set après Squaresoft par exemple, vu que c'est mon cas. Ensuite, on a un deuxième type de collection, donc qui est la collection multi-support, qui consiste à collectionner sur plusieurs supports. À l'intérieur de ce point, on peut vraiment distinguer deux critères principaux qui motivent les collectionneurs à chercher pour plusieurs supports différents. Donc on va avoir les gens qui s'intéressent vraiment à l'histoire du jeu vidéo, donc comme j'aime l'appeler l'histoire avec un grand H, et dans laquelle je range ma propre collection, car j'ai toujours été passionné aussi par ce médium et j'ai toujours voulu voir ce qui se passait avant. Donc j'aurais
pareil.
sûrement plus d'affect avec certaines consoles que j'ai connues directement à l'époque, comme la Super Nintendo dont on parlait précédemment. Mais ça m'empêche pas de rester fasciné par les anciennes machines comme l'Atari 2600 par exemple ou la ColecoVision quoi. Donc c'est ce qui va m'amener à la seconde sous-catégorie qui va être l'affect, qui va consister à collectionner uniquement ou pas les jeux qu'on a connus sur les machines de notre enfance et qu'on a revendus après ou échangés ou qu'on a prêté et qu'on nous a jamais rendus aussi.
Ah, ça c'est dégueulasse.
Et ouais, mais malheureusement, c'est arrivé à pas mal de personnes.
Ouais.
Ou des jeux qu'on a pu découvrir dans les magazines de l'époque. Hein, moi, je pense notamment à Gameplay RPG, qui était un magazine auquel j'étais abonné et qui m'a vraiment permis de découvrir pas mal de jeux, mais que soit j'avais pas les moyens, soit je voyais pas comment me les procurer. Et maintenant, j'ai pu en avoir quand même pas mal. Donc, il faudrait que je fasse des croix d'ailleurs sur tous les jeux que j'ai pu acquérir maintenant dans les magazines.
Non, mais tiens, ça me donne une idée. Il faudrait que je finisse de développer mon logiciel.
Ouais, aussi ouais, pour ça fera aussi l'objet d'une autre émission pour voir comment on gère notre collection, comment est-ce qu'il y a une façon meilleure qu'une autre de gérer la collection sa collection de jeux vidéo, donc que ce soit sur des sites internet ou que ce soit sur des sites internet, par un fichier Excel ou donc comme dans ton cas avec un logiciel, quoi.
Bah, de toute façon, tout type de collectionneur est différent et je pense que chacun la gère un petit peu comme il veut. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une façon de la gérer correctement.
Ouais, c'est exactement, c'est
Mais...
chacun le fait comme il l'entend, c'est comme la collection, quoi. Chacun gère à sa manière, quoi.
Mais dans mon cas, je dois dire que c'est... Enfin, dans un fichier Excel, je pense que c'est vraiment une idée pourrie, même si certains trouvent ça pratique.
Ouais, parce que c'est ce que je fais.
Ah, vraiment?
Non,
Désolé.
non, je fais, enfin, j'ai un fichier Excel pour qui me sert de base, mais après je fais ça aussi sur un site internet.
Ah, ok. En fait, je pense que ce serait carrément mieux d'avoir un logiciel avec une base de données, et puis un petit moyen de rechercher ou de trier par console ce qu'on a. Tu sais, pas forcément une liste de jeux qu'on possède.
Ouais, mais enfin, après avec Excel c'est quand même un outil puissant, quoi. C'est juste qu'il faut se mettre les mains dedans et c'est un peu moins sexy, c'est sûr, qu'un logiciel avec une base de données toute faite. Mais justement, enfin, on voit déjà le débat qui se dessine, donc
Ouais.
ça fera un bon sujet.
Exact.
Donc du coup, donc Nak, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi consiste la collection par constructeur, éditeur, développeur ou enfin la collection full set?
Alors, le full set constructeur, ben, dans ce moment-là, on va parler de quelqu'un qui essaye de rassembler toutes les machines et les accessoires qui ont été conçus et développés par un constructeur en particulier. Donc, par exemple, quelqu'un qui voudrait rassembler toutes les consoles Nintendo, ben, il va se débrouiller pour obtenir toutes les manettes un petit peu particulières, comme par exemple le Power Glove. Super accessoire.
Ouais, l'ancêtre de la Wiimote, l'ancêtre de Kinect.
Ouais. Ou par exemple les consoles un petit peu plus rares comme la Virtual Boy, un peu difficile à trouver par rapport aux autres. Ou même plus loin, on peut remonter aussi au Game & Watch.
Ouais, exactement.
C'est des super objets de collection quand même.
Et qui valent aussi assez cher,
Ouais.
surtout en bon état.
Ouais. Ah, mais il y a quelque temps, il y avait quelqu'un qui vendait toute sa collection de Game & Watch, tous en boîte, en très très bon état.
Je sais pas si c'est parti tout chez une même personne, mais c'est vrai que c'était joli à voir, quoi.
Ouais, c'est vrai. Et dans cette collection, ouais, on peut également retrouver les consoles prototypes ou les dev kits, par exemple, qui sont des machines un petit peu particulières, mais qu'on arrive quand même à trouver. Tu m'avais parlé d'un magasin qui était à New York et qui vendait ce genre de matériel.
Ouais, exactement. Aussi, c'est ça, c'était une PS2 Tool, donc la version de développement de la PS2 qui pèse la bagatelle de 11 kilos. Je l'avais vu donc en exposition, donc probablement en vente dans le magasin Video Games New York, qui est sur l'île de Manhattan. C'était surprenant de voir un dev kit dans un magasin, quoi. C'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Mais du coup, je pense que le prix était tellement astronomique qu'il n'était pas affiché comme dans les grandes bijouteries, par exemple.
Oui, donc sans plus attendre, on enchaîne avec la collection par éditeur. Donc comme tu l'as mentionné, ouais, et ça consiste à rassembler tout ce qui a été produit par tout ce qui a été édité, pardon, par un éditeur particulier. Bon, les éditeurs qu'on a aujourd'hui, certains étaient aussi développeurs, il me semble, à l'époque, Atari.
Ouais, tout à fait.
Donc voilà, dans une collection comme ça, on peut retrouver les anciens jeux d'un éditeur qui était autrefois développeur. Ou encore des versions bêta de certains jeux. Ça, c'est assez marrant à trouver d'ailleurs. Récemment, j'ai vu une cartouche de, je crois que c'était Mario Kart pour Super Nintendo. Il me semble qu'elle se vendait une centaine d'euros, quelque chose comme ça. Je sais plus où c'est que j'ai vu ça.
Donc
Mais ouais.
une version prototype de Super Mario Kart.
Ouais, c'est ça.
OK.
Donc évidemment, la cartouche a pas tout à fait la même gueule que les cartouches qu'on connaît. J'avais également vu une pré-version, enfin une toute première version du jeu Zelda pour la Famicom, si je me trompe pas. Tu m'avais expliqué que c'était qu'à l'époque c'était sur des disquettes.
Donc ouais, mais ça par contre c'est pas des versions prototypes, c'est juste une machine qui a pas quitté le Japon, et donc qui s'appelait le Famicom Disk System, qui avait des bouts des disquettes jaunes ou des disquettes bleues. donc les bleus qui avaient la particularité d'être réinscriptibles et du coup qui coûtaient beaucoup moins cher que le reste, mais c'est vrai que c'est des objets un peu collector pour les fans de Nintendo quoi. Mais par contre c'est vrai qu'il existe des cartouches européennes jaunes qui sont elles des prototypes de Zelda ou d'autres jeux aussi, mais on a ça, puis on a aussi des cartouches grises, donc comme les cartouches retail qu'on peut trouver certaines fois et qui ont la celle-là pour les reconnaître en tant que prototype, donc pas toutes, faut toujours rester sur ses gardes quand même quand on voit ça, mais souvent le label est écrit à la main quoi, et ça a été le cas pour Earthbound Zero, donc qui était en fait le premier Mother, qui est jamais sorti aux États-Unis, mais dont la traduction était quasiment finie, et donc le jeu aussi. Et donc il y a une version qui existe avec le jeu sur la cartouche et où le label est écrit à la main.
Ah ouais. Je voulais ajouter qu'on peut également parler des collectionneurs qui s'intéressent uniquement à un univers de jeu. Donc par exemple les fans de Mario ou les fans de Halo. Et donc ceux-là évidemment ils vont collectionner sur plusieurs supports. Puisque les séries s'enchaînent d'une console à l'autre souvent.
Exactement.
Et qui également essayent de trouver. Bon, la collection peut s'étendre en dehors du jeu vidéo, ils peuvent aussi essayer de trouver des produits dérivés. Donc moi je parle du cas de Halo parce que je suis assez fan de Halo. On trouve notamment des livres, des nouvelles, des choses qui ressemblent un petit peu à des bandes dessinées. Également des figurines, des t-shirts, ou tout un tas d'accessoires comme ça.
Exactement. Ce qu'on appelle le transmédia. On retrouve aussi ça, on retrouve ça vraiment sur toutes les grandes séries, que ce soit donc Final Fantasy ou Pokémon, justement un truc qu'on a vu avant de commencer l'émission qui nous a bien fait rire, un paquet de céréales qui doit dater de 99, qui a jamais été ouvert et on vous mettra le lien sur la page du podcast et sur lequel il est écrit Kellogg's Pokémon Limited Edition. Mais le plus marrant, c'est quand même de regarder la date de péremption qui est le 10 mars 2001. Et un paquet de céréales Pokémon à vendre, c'est quand même pas courant, quoi.
C'est clair. Et je pense que c'est le bon moment d'attaquer la collection multi-support.
Ouais, tout à fait. Une transition toute trouvée pour le type de collection le plus répandu. Donc c'est vraiment notre affect qui nous motive principalement. Donc on y reviendra dans une prochaine émission aussi sur justement tous ces jeux qui nous ont fait rêver et qu'on a passé des heures et des heures à rechercher pour un jeu en particulier plutôt qu'un autre. Pour donner un exemple concret, dans mon cas j'ai cherché pendant des mois et des mois une version de Final Fantasy VIII, qui est mon Final Fantasy préféré, donc dans une version japonaise sur PlayStation, avec un fourreau et un range carte mémoire.
Classe.
Que j'avais vu la toute première fois sur un forum qui s'appelle Assembler, qui est un forum d'ailleurs sur lequel on peut retrouver pas mal de consoles prototypes ou consoles de développement, des test kits aussi en vente. C'est un truc assez obscur, mais c'est vraiment un super site et les gens ont vraiment des collections de ouf malade. Et c'est là-dessus que j'avais vu un collectionneur qui justement s'était spécialisé dans les Final Fantasy, et j'avais vu ce Final Fantasy VIII, et c'est vrai que j'ai passé vraiment un temps fou à le chercher, et c'est vrai que quand j'ai fini par le trouver et le recevoir, c'était vraiment la joie quoi. C'était vraiment le mettre la main sur un objet qu'on attendait depuis longtemps. Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Enfin, je sais pas si toi, t'as déjà ressenti ça.
Ah, je comprends exactement ce que t'as pu ressentir à ce moment-là, quoi. Je fais exactement pareil pour un jeu que je cherchais sur Super. Non, attends. C'est sur Mega Drive. C'était Thunder Force 3. Pour moi, c'est un des meilleurs shoot'em up qui existe, en fait. Non seulement pour les musiques, les décors et tout. Enfin, c'était vraiment génial, quoi. Et, j'y jouais, c'était mon tout premier jeu vidéo. Donc j'y jouais, j'avais à peu près 5 ans. Et à cette époque-là, j'avais pas encore de Mega Drive. C'était la console de mon oncle. Et bon, après j'en ai eu une, mon père l'a vendue, tout ça, j'étais bien deg.
Oh là là, sacrilège.
Complètement, ouais. Bon, il l'a remplacé par la 64.
Ah, ça, c'est
À moitié excusable, ça va.
faut t'avouer à moitié pardonner.
C'est ça. Et c'est un jeu que j'ai mis du temps vraiment à trouver. Je l'ai cherché partout sur Internet et tout, des années après. Et finalement, j'ai réussi à l'obtenir. Et j'en avais vraiment des frissons en entendant les musiques du premier niveau, quoi. J'ai dû le faire des centaines de fois en plus. Absolument génial, quoi. D'ailleurs, c'est vraiment un jeu que je conseille à tous les fans de shoot'em up.
Ok. Ben, faudrait que je me mette à le chercher, celui-là aussi, que je regarde des vidéos.
Et ouais, je parle du 3, il était vraiment pas mal. Mais je pense que le 4 est encore meilleur parce qu'il pousse vraiment la console à bout, quoi.
Mais toi, dans tout cas,
Graphique.
c'est vraiment Thunder Force 3 que t'as fait vibrer plus que le 4, quoi.
Ouais, bah c'était mon tout premier jeu vidéo, donc on va dire que ça fait 18 ans que j'y joue.
Wow, quand même.
Je m'en lasse pas. Eh bien, et vous, dites-nous aussi comment vous collectionnez, où est-ce que vous cherchez vos perles rares.
Et dites-nous aussi comment s'il y a un jeu qui vous a fait frissonner, même si on n'est pas dans l'émission de l'affect, c'est le bon moment pour nous en parler aussi, pour échanger par rapport à tout ça, quoi. Donc il est temps de conclure ce premier numéro de DTC dans ta collection. On espère que ça vous a plu. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Donc laissez-nous vos commentaires, vos réactions sur acr-collection.net. Ou sur le forum limité d'édition dans le topic dédié. Et n'oubliez pas que le jeu vidéo est un patrimoine à conserver au même titre qu'un autre.
Je rajouterai également que c'est notre première émission, donc soyez indulgents et si vous avez des suggestions, bah, laissez-nous-les dans les commentaires ou envoyez-nous un message.
Ciao Nak, ciao tout le monde et à la prochaine.
Salut tout le monde, à la prochaine!